Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'allégresse informative en compagnie d'Eva Roque et Céline Dacosta et de Bibi. Votre capitaine dévoué et, disons-le sans fausse modestie, expérimenté. Car oui, pour mener à bien une tranche info de 2 heures, il ne suffit pas d'écrire quelques vannes. Il faut avoir une vision d'ensemble de l'émission, en connaître chaque aspect, même les plus techniques. Sur ce point, vous pouvez compter sur moi.
C'est vrai ça? Pourquoi il n'y a pas écrit la pub là dans le conducteur, t'as vu? Enfin dans le... Mais comment il y a une pub qui était prévue alors, si tu l'avais pas prévue? Oh là là, ça me terrifierait de faire ton métier, je comprends rien.
Heureusement, debout les copains, c'est aussi Fabrice Dalméda, le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin, à l'occasion des 350 ans de cette vénérable institution, revient sur l'histoire de l'Opéra de Paris.
Merci d'écouter Europe 1 ce mercredi 8 mai. Excellent réveil à tous, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce 8 mai. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Une ambiance surréaliste hier soir à Liverpool. Des miracles, des commentateurs survoltés après la remontée du club 4-0 face au FC Barcelone. Les Reds sont de nouveau en finale de la Ligue des Champions. Jérôme Lacroix y reviendra évidemment en longueur dans son journal des sports dans 10 minutes. À la une également ce matin, le preneur d'otages qui avait séquestré 4 femmes pendant plusieurs heures hier à Blagnac dans un bar PMU a fini par se rendre. Il a été immédiatement placé en garde à vue. Et puis le flop des radars embarqués, il ne flash que très peu. Explication dans ce journal.
Europe 1.
Le jeune homme de 17 ans qui avait pris en otage 4 femmes dans un bar PMU de Blagnac près de Toulouse a été arrêté peu avant minuit et immédiatement entendu. La propriétaire et plusieurs employés relâchés au bout de quelques heures. L'homme était armé, il avait indiqué que les lieux étaient piégés, ce qui explique les précautions prises par les équipes d'intervention. Sur place, le reportage de Benjamin Peter.
Il a fallu 8 heures de longues négociations pour que ce jeune homme de 17 ans accepte de se rendre. Une opération délicate pour les hommes du raid menée par Jean-Baptiste Dulion.
Du fait du profil de l'individu, hein, son tempérament, donc il fallait vraiment prendre aucun risque. Et ça a été une très longue négociation. Je rends hommage à mon négociateur qui a permis d'abord de libérer les otages et ensuite de l'amener à la raison. Nous avons pu l'interpeller en douceur. Donc tout s'est bien passé au final. Je rends hommage à mes hommes qui ont pu mener cette opération avec tact.
Un peu plus tôt vers 20h, juste après avoir libéré une première otage, le jeune homme a laissé les 3 autres femmes appeler leur famille, et notamment Jamel, dont la compagne travaille dans le tabac.
Ça a duré 30 secondes, elle m'a dit ça va très bien, ne vous inquiétez pas, il ne nous a pas fait de mal et on ne sait jamais comment ça finit, donc voilà, oui, je suis inquiet. Mais bon, maintenant que je l'ai eu au téléphone et qu'elle m'a dit ça se passait bien, que tout le monde était calme à l'intérieur, je suis quand même un peu soulagé, je pense que ça va bien finir.
Connu pour des faits de violence, de vol et pour avoir été interpellé lors d'une manifestation en décembre, le preneur d'otage a laissé une lettre à son domicile où il apparaît déprimé. Il évoque le mouvement des Gilets jaunes, explique sa détermination à mener une action spectaculaire. Il a été placé en garde à vue et l'enquête pour séquestration a été confiée à la PJ de Toulouse. Blagnac, Benjamin Péter, Europe 1.
Elles ont 14 et 17 ans, 2 adolescentes vont être déférées aujourd'hui au parquet de Saint-Étienne. Elles sont suspectées d'avoir profané près de 70 tombes d'un cimetière de la ville. Leur garde à vue a été prolongée hier soir. Elles ont été interpellées lundi en fin de journée par des policiers de la BAC. Elles avaient visiblement bu de l'alcool, ont réagi par désœuvrement et bêtise selon les mots du procureur adjoint. Des stèles et des croix ont été brisées, des pierres tombales renversées. L'auteur présumé d'un féminicide activement recherché hier après les découvertes dimanche soir à Saint-Aubin-de-Médoc en Gironde du corps d'une femme de 64 ans frappée de 40 coups de couteau. La victime a été retrouvée par ses enfants dans l'appartement de son ex-conjoint.
Près de 95% des contribuables qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu vont bénéficier d'une baisse d'impôt l'an prochain.
Oui, montant moyen de 300 euros par foyer, chiffre dévoilé par Gérald Darmanin dans les colonnes du journal Le Parisien. La quasi-totalité des gens, qu'ils soient ouvriers, salariés, cadres, seront concernés, affirme le ministre des Comptes Publics. À partir à moins de 20 jours du premier tour des Européennes, Emmanuel Macron s'est invité dans un restaurant parisien pour motiver ses troupes. Les candidats de la liste Nathalie Loiseau avaient choisi le restaurant du Palais de Tokyo pour cette rencontre. Emmanuel Macron qui présidera la traditionnelle cérémonie commémorative du 8 mai 45, la capitulation allemande, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il déposera une gerbe au pied de la statue du général de Gaulle à 10h40, se rendra également sous l'Arc de Triomphe. Notez que les manifestations gilets jaunes sont interdites autour de la place de l'Étoile et plusieurs stations de métro sont fermées aujourd'hui.
Les radars embarqués ne vont sans doute pas être généralisés.
Oui, les radars qui se déploient très lentement en raison de problèmes techniques, un dispositif testé testée sur les routes normandes, jugée aujourd'hui inefficace. Jean-Jacques Herry.
Après un an d'expérimentation, les chiffres sont sans appel. Dans la Manche, par exemple, sur les 3 premiers mois de l'année, ces matériels embarqués n'ont flashé que 965 fois, soit à peine plus de 10 fois par jour. Pourtant, les automobilistes du secteur n'ont pas vraiment levé le pied, car si on s'intéresse au nombre total d'excès de vitesse enregistrés dans le département, celui-ci a dans le même temps augmenté de moitié. Bref, il y a un problème et il est technique, selon Chantal Perrichon, la présidente de la Ligue contre la violence routière.
La délégation interministérielle a cru bon d'ajouter la reconnaissance des panneaux, ce qui pour nous était une erreur puisque la technologie n'était pas au point. Ce n'était pas le moment d'ajouter cette difficulté.
Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes se réjouit quant à lui de cet échec.
C'est une excellente nouvelle. Peut-être on va pouvoir mettre fin à cette mesure-là qui était d'une stupidité sans nom. Confier la sécurité routière à des sociétés privées, on aura tout vu. C'est vraiment la preuve qu'on cherchait avant tout à faire de l'argent plutôt que de la sécurité.
Cette sous-traitance coûte en plus très cher, 120 000 euros par an pour chacune des 26 voitures banalisées appartenant à des sociétés privées. Et au vu du faible nombre de verbalisations, le montant des amendes ne suffit même pas à rembourser cette somme. La généralisation du système ne semble donc plus vraiment à l'ordre du jour.
Jean-Jacques Herry pour Europe 1. Je n'y peux rien. Hier, l'ancien dirigeant de France Télécom, Didier Lombard, a refusé toute responsabilité dans la vague de suicides qui a touché l'entreprise à la fin des années 2000. Autre secteur particulièrement touché par le nombre de suicides, l'hôpital, et notamment chez les internes. Dernier en date à l'hôpital de Lyon-Sud la semaine dernière. Jean-Luc Boujon est allé à la rencontre de ces internes à bout de souffle.
La jeune médecin était en 7e année. Elle venait de terminer son stage de premier semestre dans le service d'hépato-gastro-entérologie de Lyon-Sud, un des services les plus durs de l'hôpital avec de fréquents décès de patients, mais aussi une charge de travail très importante due au manque de personnel. Une situation évidemment pas spécifique à Lyon. Partout dans tous les hôpitaux de France, les internes sont littéralement pressurés, dénonce Lucas Reynaud, président du syndicat des internes lyonnais.
La charge de travail est telle qu'on dépasse nos quotas horaires de façon quotidienne. La loi encadre le temps de travail à partir de 48 heures maximales par semaine. Ce n'est pas respecté. Il faut savoir qu'on a des journées de repos compensatoires. On ne les prend pas. Pourquoi ? Les obligations de service. C'est-à-dire que nous, internes, on ne peut pas faire grève, on ne peut pas prendre nos repos parce que c'est des patients qui en pâtissent. On ne va pas prendre des repos ou partir tôt du bureau en disant « j'ai fait mon quota horaire » parce qu'en fait, on soigne des gens.
La jeune femme parisienne d'origine était visiblement très seule à Lyon. Comment voulez-vous tisser des liens quand vous travaillez 80 heures par semaine ? Questionnent les syndicats qui avancent des chiffres alarmants. En seulement 6 mois, 10 tentatives de suicide ont été recensées au niveau national chez les internes, dont 2 la semaine dernière. Dans une enquête menée récemment, 2 internes sur 3 reconnaissent avoir régulièrement des idées suicidaires. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Aux États-Unis, une énième fusillade dans un établissement scolaire. Au moins un mort et 7 blessés hier. Certains sont dans un état critique. Ça s'est passé dans la banlieue de Denver, à l'ouest du pays. 2 suspects, vraisemblablement des lycéens qui étaient scolarisés dans l'établissement, ont été arrêtés.
Jour férié, vous faites peut-être partie de ceux qui en profitent pour faire le pont.
Une petite ambiance d'avant-grandes vacances. D'ailleurs, les professionnels du tourisme sont confiants. Plus 9% de réservations par rapport à l'année dernière pour cet été. Et comme l'a constaté l'Interzian, dans les rues de Paris, les Français ont bien envie de déconnecter.
J'ai hâte d'être au mois d'août, plus que 3 mois et demi. Je compte presque les semaines. Je vais regarder ce week-end pour réserver, pourquoi pas l'Espagne. Ouais. Un bon compromis aussi au niveau, plutôt le matin, des visites, l'après-midi, plutôt détente, hein, plage.
On va au Portugal pendant 3 semaines. Je suis contente même de partir à l'étranger pour me sentir dépaysée et puis déconnecter des nouvelles économiques, comme les gilets jaunes par exemple, les manifestations, la politique, enfin voilà, les vacances, c'est fait pour décompresser.
Évidemment, on a envie de sortir de notre grisaille parisienne. Et on profite des ponts de mai, déjà, pour avoir un avant-goût des vacances de l'été.
La valise est toujours prête pour partir, donc je fais un grand pont. Je vais à Berne, en Suisse, pour faire une bonne pause, prendre de bon air frais et puis un peu de soleil, j'espère. Avant-goût des vacances d'été. Hop, c'est parti.
Ouais, bon, c'est pas pour demain non plus. Propos recueillis par Hélène Tarzian pour Europe 1.
C'était le journal de Céline Kallmann. Céline, avec qui, n'en déplaise à son mari, décidément bien tatillon, nous vivons une sublime histoire d'amour. Quasi sans nuages, dernière preuve en date hier, même quand on s'engueule, ça ne dure jamais longtemps.
Des températures encore négatives cette nuit, surtout dans l'est du pays et aussi dans le centre. Les agriculteurs et les viticulteurs sont restés mobilisés.
Et Thierry Beccaro qui arrête Motus, on n'en dit pas un mot.
Tu veux que je le fasse ?
Mais je rigole, on s'en fout, non ?
Bah non.
Pauvre France.
Motus.
On se réconcilie toujours rapidement.
Non mais comme ça, on en a parlé, c'est bien.
Et comme ça, on est comme ça.
Parce
l'info a été donnée.
Voilà. Parce qu'on s'en fout pas.
Et c'est important, et bien surtout vous, Eva,
mais oui.
Spécialiste télé. C'est vous qui deviez le dire hier. Vous n'avez rien dit.
C'est vrai.
Scandaleux. On embrasse Thierry Beccaro.
Motus.
Il est 6h09, Mathieu Noël.
À suivre cet historique, le fact-checking par l'histoire. Ce matin, Fabrice Dalméda nous entraîne à l'Opéra de Paris, qui fête ses 350 ans retour sur l'histoire d'un lieu pas comme les autres.
Bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 6h10, Mathieu Noël.
Et nous faisons tout de suite un point sur la météo du jour.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Toujours clément, il faut le dire vite Rénoval. Les températures matinales sont en hausse, merci la pluie.
Oui, mais il y a un Abri de Piscine, donc tout va bien. 8 degrés à Nancy, 10 à Paris, 8 à 10 degrés. C'est les températures qui ont augmenté de 8 à 10 degrés déjà ce matin. Cet après-midi, ça reste un petit peu frais pour la saison. 13 à 18 degrés, côté ciel, c'est perturbé, on l'a dit. De la pluie, du vent un petit peu partout et cette perturbation se déplace d'ouest en est avec le retour de la neige sur les Pyrénées et les Alpes du Nord en altitude et puis également quelques éclaircies qui vont revenir sur une partie ouest de cet après-midi puis qui vont rester très timides sous un ciel agité et quelques coups de tonnerre.
Merci Céline et Varoc.
J'ai pas de sponsor ?
Non, mais on va vous en mettre si vous voulez.
D'accord, non, mais c'est pas grave. Je voudrais un sponsor et un jour férié supplémentaire tous les ans.
Madame est bien exigeante.
C'est la question qu'on vous pose depuis ce matin, 5h. Quel jour vous aimeriez qu'il soit férié pour fêter quel genre d'événement, par exemple? Stéphane, lui, nous dit je vous propose tous les 4 du mois. Le 4, c'est le jour de son anniversaire. Est-ce que c'est possible? Écoutez, on va poser la question, on va demander. Si elle nous dit un jour férié, le jour de la Saint-Valentin, comme ça, même les célibataires en profiteront. Ça, c'est malin. Et Karanoyak nous dit moi, je préfère un week-end de 3 jours, est-ce que c'est possible aussi?
Moi aussi.
Eh bien, pareil.
Oui, envoyez toutes vos réclamations à Europe 1. On s'arrangera avec Emmanuel Macron.
Avec Élysée, on va leur envoyer cette petite suggestion. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
C'est un journaliste courage qui nous rejoint à présent. Depuis le début de la saison, il avait promis à sa mère de rester le journaliste sérieux et intègre qu'il a toujours été et de ne pas me laisser écorner son image en exploitant une bêtise qu'il aurait faite ou chantée hors antenne. Jérôme Lacroix aura tenu 8 mois jusqu'à ce que la régie lui tende ce piège odieux hier.
Nanane Philibert pour aller danser le jerk.
Je viens de me faire baiser puisqu'ils m'ont fait chanter le jerk dans les ordres.
Oh les salopards.
Croyez bien, Jérôme Lacroix, que je châtierai les coupables. En attendant, Jérôme, on passe au journal des sports.
C'est le gourou.
C'est vrai. À la une du JDS, l'histoire du foot marquée au fer rouge.
Oui, rouge comme Liverpool, mais que s'est-il passé hier soir à Anfield? Une soirée irréelle, invraisemblable, détonnante. Liverpool qui se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions au prix d'un exploit singulier, battre le Barcelone de Lionel Messi 4-0 en demi-finale retour en Angleterre après une défaite 3-0 à l'aller. C'est rarissime. Et le frisson, ce frisson après le coup de sifflet final, ce chant bien connu dans le foot anglo-saxon, mais c'est vrai, emblématique de Liverpool, c'est la devise du club. You'll never walk alone, tu ne marcheras jamais seul. Joueurs et supporters l'ont entonné ensemble après l'exploit des Anglais, qui plus est, qui étaient privés de leur star en attaque, l'Égyptien Mohamed Salah. 2 doubles buteurs inattendus hier soir, le milieu néerlandais Wijnaldum et l'attaquant belge Divock Origi, l'ancien joueur de Lille, incrédule.
C'est incroyable, quand tu vois le match, quand tu gagnes 4-0 contre le Barça, c'est quelque chose qu'on savait que ça allait être dur, mais les émotions, le match, les émotions du fan aussi, ça fait que c'était une soirée incroyable.
Divock Origi, l'un des buteurs de Liverpool au micro hier soir d'RMC Sport, et ce matin on aura une pensée, Mathieu, pour les supporters du PSG enfin vengé. Barcelone a connu sa remontada. Voilà, ça y est.
On se console comme on peut.
Voilà, consternation en Espagne. En tout cas, les joueurs sont dévastés, a concédé l'entraîneur catalan Valverde.
Dévastés comme la presse espagnole.
Débâcle européenne, écrit le Mundo Deportivo. Tragédie pour AS, journal madrilène. Hécatombe à Anfield. C'est ce qu'écrit de son côté Marca. Liverpool disputera donc cette finale de la Ligue des Champions le 1er juin prochain à Madrid. Contre qui? L'Ajax Amsterdam ou Tottenham? Les deux équipes s'affrontent ce soir aux Pays-Bas de la seconde demi-finale. Retour coup d'envoi 21h. À l'aller, Amsterdam avait gagné 1-0 à Londres.
Le foot féminin, Jérôme, est lancement aujourd'hui de l'aventure Coupe du Monde.
Rassemblement des Bleus à Perros-Guirec en Bretagne pour un stage de préparation. 3 jours, le mondial en France démarre le 7 juin. L'ancienne joueuse Camille Abili, 16 ans en équipe de France, raconte l'importance de ces moments de stage qui servent bien souvent la cohésion du groupe.
Mine de rien, elles attendaient ça depuis un moment. Donc là, elles disent « aïe, on y est ». Donc elles vont compter aussi les jours, parce que des fois les préparations sont un peu longues. Mais voilà, c'est pour vivre quelque chose de grandiose. Et, Et je pense que c'est important qu'elle commence.
Un stage sans les joueuses de Lyon qui disputeront samedi de la semaine prochaine la finale de la Ligue des Champions. Et même dès aujourd'hui, ces joueuses de Lyon, elles disputent la finale de la Coupe de France contre Lille. En bref, le tennis, il n'a pas traîné Roger Federer pour son grand retour sur terre battue 3 ans après son dernier match sur cette surface. 52 minutes à peine pour se débarrasser de Richard Gasquet au deuxième tour du tournoi de Madrid. Également hier, victoire de Djokovic. Et puis côté français, succès de Pouille. Enfin, 3 mois de disette pour lui sur le circuit principal. Chardy, Manarino et Caroline Garcia côté dames ont aussi gagné. Aujourd'hui, place à Nadal, bien que diminué ces derniers jours par un virus à l'estomac.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Tu vois, Mathieu, le monde se divise en 2 catégories. Oui, je te le dis, sur cette musique d'Ennio Morricone. Pour le film Le Bon, la Brute et le Truand, le célèbre compositeur italien, 90 ans, il composera l'hymne des JO d'hiver 2026, figurez-vous. 6 000 ans est désigné.
Ah bon, le 24 juin. Que 1 000 ans sera désigné alors.
Ça pourra avoir de la gueule.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et tout de suite, nous accueillons Fabrice Dalméda pour la chronique Histoire avec aujourd'hui à la une un anniversaire, celui de l'Opéra de Paris qui fête, Céline, ses 350 ans.
Bisous, bisous. Kissou, kissou.
Oui, il sera très, très touché certainement. Enchaînons vite.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Ce soir à 20h aura lieu à l'Opéra de Paris un gala exceptionnel pour les 350 ans de cette institution. L'opéra en France, c'est une passion si ancienne.
C'est une passion qui remonte à Louis XIV, ce roi passionné de musique et de ballet. Il autorise la première académie destinée à la création d'opéra en 1669. Cette académie d'opéra est confiée à un poète, Pierre Perrin, auteur d'un livre dédié à Colbert, le principal ministre du roi, livre qui expose sa pensée. Perrin attaque l'opéra inventé par les Italiens car il accorde mal les parties parlées et la musique. Or, selon Perrin, le texte et la mélodie doivent former un tout. C'est la règle de base de l'opéra français dont il rêve, une œuvre patriotique. Et dès 1671, avec le compositeur Robert Cambert, il applique sa théorie pour le premier opéra français, une œuvre composée pour l'ouverture à Paris du premier théâtre lyrique, Pomone. Et au début, il rend un vibrant hommage à Louis XIV. Écoutez.
Jamais, jamais un si grand homme ne fut assis au trône.
Je crois qu'il parle de vous, Mathieu.
Ah oui, non, c'est plutôt explicite. Hein.
Voilà, mais Perrin se ruine et dès 1672, il doit céder son privilège à un nouveau promoteur de spectacle, le favori du roi, le grand musicien d'origine italienne, Jean-Baptiste Lully. C'est lui qui permet la construction d'opéras en province et fait décoller le genre en France.
C'est à eux qu'on rend hommage ce soir à l'opéra.
Eh bien, curieusement, non.
Ah bon ?
Aucune œuvre de ces compositeurs n'apparaît dans le programme officiel du gala des 350 ans et des autres d'ailleurs. C'est un peu une gifle pour l'optique patriotique de Pierre Perrin. Sont privilégiés des artistes italiens du 19e siècle comme Verdi, Puccini et Leon Cavallo, peut-être parce qu'ils correspondent mieux à l'esthétique du Palais Garnier, construit entre 1867 et 1875. Allez, pour vous donner envie, en ouverture, il y aura cela. Eh oui, vous avez reconnu la Traviata de Giuseppe Verdi. De quoi se réveiller en levant un verre à la beauté et à l'amour, comme ici Luciano Pavarotti et bien sûr en célébrant l'opéra.
Magnifique, inoubliable, Luciano Pavarotti, Eva. Quel est son successeur aujourd'hui? Est-ce que l'opéra lui a trouvé un successeur? Jonas Kaufmann peut-être?
Oui peut-être, non parce qu'il a une voix plus aiguë, Kaufmann.
Il est quand même ténor
mais,
aussi.
Mais il y a la nouvelle génération qui est exceptionnelle, et notamment chez les Français.
Magnifique, merci beaucoup Fabrice Dalméda.
Merci
l'histoire
à
la rescousse de l'actualité, on vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités pour la commenter en ce 8 mai. On s'est posé une question, comment donner le goût de l'histoire aux jeunes? Comment leur parler d'histoire sans que ça soit rébarbatif? Moi j'ai dit en regardant OSS 117.
Est-ce qu'il serait par hasard possible, Jean, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association?
Eva m'a dit, et si on recevait plutôt Hugo Bimard, un type génial qui a créé une web-série ludo-éducative intitulée Confession d'Histoire. J'ai dit, ok, mon idée de SS117 était bonne, mais là je dois reconnaître que la tienne est mieux. Va pour Bimard.
Bienvenue sur Europe 1 et bon réveil, il est 6h20. Il est 6h21, l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
L'exploit et le mot est fait, hier de Liverpool en Ligue des Champions, battu 3-0 au match aller. Les Reds ont réussi à faire chavirer Barcelone à domicile 4-0. Les Anglais vont disputer une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive le 1er juin prochain. Un jeune homme de 17 ans a été interpellé hier soir après avoir libéré ses 4 otages retenus pendant plusieurs heures dans un bar PMU de Blagnac. Les 4 femmes sont en bonne santé. Enfin, l'ex-PDG de France Télécom Didier Lombard, jugé à Paris pour harcèlement moral 10 ans après la vague de suicides dans l'entreprise, a rejeté toute responsabilité dans cette crise qu'il a qualifiée de crise médiatique.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 8 mai. L'actualité, c'est donc la commémoration aujourd'hui de la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Mais comment raconter l'histoire aux jeunes générations, notamment comment les intéresser à ce passé trop souvent perçu comme ennuyeux, lointain, à part certains films qui ont, je crois, réussi à donner des moments sombres de notre histoire, un rendu à la fois réaliste et divertissant.
Assurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Tiens, pendant que vous y êtes, ajoutez-moi les tickets de pain. Vous les laissez tomber doucement par terre, allez, hop.
À part les films à dimension ouvertement pédagogique, comme Papy fait de la résistance, comment intéresser les jeunes à l'histoire? Et si une des solutions était les contenus numériques, à commencer par les chaînes YouTube? Bonjour Hugo Bimard.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur et truquiste, vous êtes passionné d'histoire, vous avez créé la web-série Ludo-éducative, pas facile à dire, Confession d'Histoire. En gros, me disait Eva dans un SMS avec son sens légendaire de la synthèse, c'est Kaamelott, mais véridique historiquement. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle?
Si vous voulez.
Ah, vous n'en êtes pas content de ce parallèle?
Bien sûr que si.
C'est un bel hommage.
Tout à fait, absolument. Mais bon, ça, c'est vrai que ça revient souvent, donc, parce qu'il y a forcément, dès que vous avez des personnages en costume qui parlent avec un phrasé contemporain, ouais, ça fait un petit peu penser à Kaamelott. Moi, comme je dis toujours, j'avais plus 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ en tête.
Ah, c'est pas mal.
Mais, parce que c'est ta génération.
C'est vrai, c'est la mienne aussi. Alors, le concept est rieur en soi, c'est confession intime appliquée à l'histoire. En gros, c'est Jules César, c'est Napoléon qui se confie face caméra, façon un ch'ti à Miami ou comme un lofter.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est le confessionnal des téléréalités, mais vous remplacez Nabila par Cléopâtre. Et vous avez le concept.
Oh, on y gagne
absolument.
Beaucoup.
Elle a plus de choses à dire et c'est très intéressant.
Avec des comédiens qui sont excellents, il faut le souligner. Hein.
Avec des comédiens professionnels, qui sont tous des professionnels issus du théâtre, du cinéma, du one-man show, etc.
Alors qui on va pouvoir voir comme personnage? Jules César et Vercingétorix pour l'épisode sur la guerre des Gaules, Urbain II, Pierre l'Ermite, Baudouin Ier de Jérusalem, il y en a que je ne connais pas personnellement d'ailleurs, je tiens à le signaler. Comment vous avez choisi?
Le petit frère de Godefroy de Bouillon.
Ah, bon, évidemment, ce bon vieux Godefroy. Alors, comment vous avez sélectionné les personnages? Il fallait que l'histoire se prête un peu à rire ou c'est d'abord la rigueur historique qui vous a intéressé?
Non, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de faire de l'humour avec l'histoire, puisque ce sont vraiment des petits sketchs, mais où l'humour découle véritablement des sources historiques. C'est-à-dire que vraiment, il faut que l'histoire en elle-même soit porteuse de comédie, comme par exemple Aliénor d'Aquitaine et son mari, c'est un couple de comédie. C'est vraiment...
Qu'est-ce qui leur est arrivé?
Eh bien, donc, Aliénor, une bombe...
une bombe platine.
une personnalité extrêmement forte, née pour régner, qui régnait sur donc, l'Aquitaine, qui est quelque chose d'immense à l'époque. Et qu'on met entre les pattes de ce roi qui ne devait pas être roi, puisque son frère est mort par accident, son cheval a croisé un cochon, le cheval a pris peur, le mec est mort, et donc lui, le cadet ou le je ne sais quoi, qui était élevé par des moines et qui n'avait pas du tout,
qui n'était
pas du tout destiné à être roi, et donc élevé vraiment dans un contexte religieux, se retrouve avec, notamment au lit, après son mariage, avec Aliénor, il ne sait pas quoi en faire, quoi, de ce truc. Et elle va l'écraser, elle va le dominer pendant pas mal d'années, jusqu'à ce qu'il se rebiffe. C'est de la comédie.
Ah, effectivement.
Enfin,
oui.
C'est,
et les ressorts de la comédie qui sont là.
Voilà, exactement. Ça peut être traité de manière dramatique, mais c'est aussi du potentiel comique.
Mais vous dites justement, je ne veux aucune blague gratuite, tout doit être ancré dans une information historique. Vous vous êtes entouré d'historiens, au sens classique du terme, pour vérifier...
Non, pas du tout. Je me suis entouré de quelques bons bouquins.
Ouais.
Je choisis les auteurs
aussi.
Qui sont les plus pertinents par rapport au sujet que je veux traiter. Par exemple, pour ce qui est d'Aliénor, j'ai tenu à me baser sur Régine Pernoud, qui est une historienne Donc c'était assez intéressant, je trouve, une historienne qui a beaucoup travaillé sur, sur la place des femmes au Moyen-Âge. Et donc voilà, c'était intéressant de, d'avoir cet aspect un peu féministe.
Donc c'est quand même extrêmement pointu. Est-ce que vous avez eu à faire face à des, je dirais pas des, des polémiques, mais comme l'histoire, quand elle est vulgarisée, prête souvent à des commentaires, comme en plus vous êtes en ligne, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit « oui, mais ça, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait la réalité historique », est-ce que vous avez déjà eu ça ou ça se passe plutôt bien ?
Alors, dans l'ensemble, ça se passe plutôt très bien. Si ce n'est que le second épisode porte sur la première croisade,
oui.
J'ai tenu à le faire le plus, comment dire, je me suis basé sur le livre d'Amin Malouf, Les croisades vues par les Arabes, parce que je voulais quelque chose qui soit le plus, plusieurs pôles, vous voyez, que ce soit pas uniquement centré sur le christianisme. Et bon, là, celui-là, il fait grincer quelques dents du côté notamment des identitaires qui,
oui, ah oui.
qui considèrent que c'est très anti-chrétien. Si vous voulez, je montre les chrétiens comme... me dit-on, sale et bête. Bon, d'abord, tout le monde est bête.
Tout le monde a cette époque sale, en tout cas.
Alors, sale, bah, les mecs, ils viennent de parcourir 1000 km à travers le désert. Voilà. Et par contre, les Arabes sont montrés, enfin, les Turcs, en l'occurrence, et aussi les Arabes, d'ailleurs, parce qu'il y a des... ceux de Bagdad, ils sont montrés comme étant dans leurs beaux habits, etc. Mais ils sont tous aussi cons les uns que les autres.
Vous tenez à le préciser ce matin.
Je tiens à le préciser. Et puis, certains trouvent que c'est anti-chrétien. Heureusement, certains m'ont dit que c'était aussi anti-musulman. Donc tout va bien.
Bon, tout va bien. Dans aller. Voilà. Monde. Eva Roche.
Hugo Pimard, YouTube est devenu vraiment un lieu pour l'histoire et pour vulgariser l'histoire. Beaucoup de jeunes y vont. Est-ce que des enseignants utilisent votre support pour apprendre l'histoire à leurs étudiants ?
Mais oui, tout à fait. Les épisodes sont projetés en cours. Alors, avec le format qui a augmenté, qui est maintenant passé souvent à la demi-heure, ça devient plus difficile à caser.
Oh, ils sont contents, les gens. Plus les films sont longs dans les supports pédagogiques, plus j'aime.
Je pense qu'ils font en sorte quand même que ce soit accompagné d'une discussion, d'un débat. Ils ne se contentent pas juste de passer la vidéo et c'est tout. Ils font un métier formidable, les enseignants. Et d'ailleurs, aucune vidéo sur YouTube ne remplacera jamais un cours. Il faut être clair.
Donc on peut pas réviser le bac grâce à YouTube.
On peut réviser le bac, mais si vous avez que ça, ça risque de coincer à un moment donné.
Merci beaucoup Guébémard d'avoir été avec nous un 8 mai en direct sur Europe 1 Servant. On rappelle que vous êtes le créateur et le réalisateur de la web-série Confession d'Histoire que vous pouvez retrouver tout de suite sur YouTube. Merci à vous.
Merci.
Europe 1, il est 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec le journal du scintillant David Doucan et puis la météo. Une journée pluvieuse, venteuse, orageuse, bref, écoutez-nous en restant sous la couette.
Il est 6h29, Mathieu Noël.
Et nous faisons un point avec vous Céline sur la météo. Retour du soleil, mais seulement vendredi.
Hein. Oui, et en plus, ce sera en attendant une nouvelle perturbation pluvieuse pour samedi. Non, le retour au calme, ce sera plutôt dimanche et puis début de semaine prochaine avec beaucoup de soleil. En attendant, on pense aux nappes phréatiques, à la pluie qui va tomber aujourd'hui et les journées qui arrivent. Hein, la plus agitée avec du vent, également retour de la neige sur les reliefs des Pyrénées, aux Alpes des Pyrénées et sur les Alpes du Nord également. Quelques éclaircies vont pointer le bout de leur nez cet après-midi sur une partie ouest et les températures qui sont un petit peu juste pour la saison cet après-midi sont en hausse ce matin, une moyenne de 8 à 15 degrés du nord au sud.
Merci Céline.
Europe 1
5h, 7h
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos rigoureuses nappées d'une couche de fantaisie burlesque grâce notamment aux contributions comiques pas toujours volontaires d'Eva Roque et Céline Dacosta, dites les Catherine et Liliane de la rue des Cévennes. Alors, avec elles, on rit beaucoup bien sûr, mais pas que. Car Catherine et Liliane, c'est aussi de l'émotion bien quand sûr. Un drame survient, comme hier.
Oh tiens, mon poisson rouge est mort. Ah merde, quand ?
Hier, je crois.
Non.
Si. Il va falloir que j'en rachète un.
Émotion qui, ma foi, nous prend aux tripes. Eux aussi savent rester dignes dans l'épreuve. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent avec ce matin un programme, notamment la droite et les municipales à Paris. Tout un poème.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Un grand club, un grand match et un grand public. Liverpool a renversé Barcelone, quel exploit. 4-0. Les trois buts du Barça au match aller sont effacés. Les Reds vont en finale de la Ligue des Champions. 5 heures d'angoisse, mais un dénouement heureux. Les 4 femmes retenues en otage dans un bar PMU de Blagnac ont été relâchées. Le forcené, âgé de 17 ans seulement, a été arrêté. Fin du suspense aujourd'hui à Windsor. Nous connaîtrons le prénom du Royal Baby et peut-être sa frimousse. Reportage de notre envoyé spécial avec des Anglais impatients et anxieux.
Europe 1.
C'est sans doute l'un des plus beaux matchs de l'histoire de la Ligue des Champions. Les Reds de Liverpool ont balayé Barcelone. Personne n'y croyait, pourtant ils l'ont fait. 4-0 chez eux dans le chaudron d'Anfield. Leur défaite 3-0 au Camp Nou au match aller devient de l'histoire ancienne. Et Liverpool va en finale de la plus belle compétition d'Europe. C'est un moment d'histoire du sport que nous avons vécu hier avec un grand H. Et c'est Jean-François Pérez qui raconte.
You'll never walk alone, tu ne marcheras jamais seul. C'est l'hymne de Liverpool, l'hymne d'un club en état de grâce. La presse locale le rappelait au matin de ce match déjà entré dans la légende. Nous avons perdu 3-0 à Barcelone, nous avons perdu Salah et Firmino, mais nous avons Anfield. Et c'est dans une atmosphère rendue brûlante par 50 000 poitrines que s'est écrit l'incroyable scénario. Dès la 7e minute, Origi, l'éternel remplaçant, ouvre le score avec une rage qui en dit long. 1-0 à la mi-temps, on se dit que le Barça a de la marge, mais Liverpool donne tout et plus encore. Wijnaldum, autre habitué du banc de touche, inscrit un doublé inouï en à peine 2 minutes. Le stade s'embrase, il va exploser à 10 minutes de la fin. Quand sur un corner joué rapidement, Origi, encore lui, ridiculise une défense barcelonaise déjà résignée. 2 ans après la remontada face au PSG, les coéquipiers de Messi goûtent à leur tour la potion amère d'un comeback mieux. D'une Red Montada.
Jean-François Pérez pour Europe 1, vous avez compris Mathieu?
J'ai rien compris parce qu'Eva est en train de me parler. Elle
Red
me parle,
Montada.
Red Montada, le jeu de mots est excellent, je l'ai déjà entendu, il est excellent.
On dit les Reds de Liverpool.
J'ai bien compris David.
Sur le plan de l'humour, parfois il faut vous aider. Et peut-être que nous aurons une finale 100% anglaise puisque l'Ajax d'Amsterdam accueille ce soir Tottenham, coup d'envoi à 21h. À l'aller, les Néerlandais avaient gagné à Londres 1-0. La politique maintenant, la campagne des Européennes. Sur Europe 1, débat hier soir avec notre partenaire CNews, Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI, Guillaume Ballas de Génération, Florian Philippot, les Patriotes, François Asselineau de l'UPR, Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière et Fabien Roussel du PCF. Ils ont croisé le fer, ils avaient des choses à dire. Résumé de la soirée, Virginie Rivard.
Autour de la table, 6 candidats, tous anti-système, à l'exception du centriste Jean-Christophe Lagarde qui, comme les autres, ne ménage pas ses critiques contre Emmanuel Macron.
Il y a 2 ans, dans toute l'Europe, il représentait un espoir. Il a donné la leçon à tout le monde. Il a, au fond, fait ce qu'il fait parfois en France, cliver.
Fabien Roussel, secrétaire national du PC, attaque sa politique économique.
Ceux qui vont lui accorder un bon point, c'est ceux qui bénéficient majoritairement de sa politique.
Sur l'Europe, les échanges se tendent. 2 des candidats présents défendent le Frexit, soit une sortie de la France de l'Union européenne, comme Florian Philippot, patron des Patriotes, qui s'en prend à Guillaume Ballas, représentant de Génération de Benoît Hamon.
Monsieur Ballas, écoutez-moi.
Vous êtes cohérent quand on est
élu. Vous réécoutez et vous verrez où vos prédécesseurs des mêmes partis, vous verrez que vous faites toujours les mêmes promesses. Vous ne modifierez rien et vous reviendrez la
queue
entre les jambes.
Vous avez été cohérent en tant que député européen.
Dans 5 ans, monsieur Ballas. Monsieur Lagarde, c'est pareil. Dans 5 ans, vous reviendrez la queue entre les jambes en disant « mais j'ai rien changé ».
La question des migrants oppose encore davantage les candidats avec des positions radicalement différentes, de la liberté d'installation inconditionnelle pour Nathalie Arthaud, tête de liste Lutte Ouvrière, à la fermeture totale des frontières pour Florian Philippot.
Virginie Riva pour Europe 1. J'ajoute qu'Emmanuel Macron s'est personnellement impliqué hier dans la campagne des Européennes. Il a rendu discrètement visite au colistier de la liste Renaissance, au restaurant Monsieur Bleu du Palais de Tokyo à Paris. Ce qui se joue dans ces élections n'est rien d'autre que l'avenir du projet européen, a lancé le président de la République devant les candidats de sa majorité. Des précisions sur les réductions fiscales annoncées par le chef de l'État. Gérald Darmanin affirme que 95% des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu paieront en moyenne 300 euros de moins. Interview du ministre du Budget dans Le Parisien ce matin, mais comme rien n'est gratuit en ce bas monde, un rapport du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale prévoit que le retour à l'équilibre de la sécurité sociale prévu en 2019 risque bien de ne pas avoir lieu, précisément à cause des mesures d'urgence adoptées en réponse aux Gilets jaunes. Les 4 femmes ont vécu une soirée d'angoisse. La propriétaire et les employés d'un bar PMU de Blagnac, près de Toulouse, ont été séquestrés 5 heures durant par un forcené armé qui avait prétendu avoir piégé l'endroit. C'est le RAID qui a longuement négocié. Les 4 otages ont été heureusement libérés. Le malfaiteur, un jeune homme de 17 ans seulement, a fini par se rendre à son domicile. Les enquêteurs ont trouvé une lettre où il évoque son acte. Écoutez Dominique Alzéari, procureur de la République de Toulouse.
C'était le courrier d'un jeune homme un peu perdu, hein, un peu dépressif, en même temps décrit comme assez déterminé, et c'était tous ces éléments qui étaient soumis hein, à la sagacité du RAID dans son intervention et à toutes les appréciations de monsieur le préfet et de moi-même. On est forcément inquiet quand on a un jeune homme très décidé, qui est armé, et qui a quatre personnes, hein, quatre femmes, sous sa coupe pendant des heures avec quelqu'un qui parle effectivement d'autres armes, d'avoir même piégé les lieux à certains moments. Donc tout ça, bien évidemment, était assez inquiétant et c'est aussi un hommage, une fois encore, qui est rendu à tout le travail qui a été fait pour solutionner, en tout cas, hein, cette prise d'otage. Et je le répète, donc les éléments d'investigation judiciaire commence à partir de maintenant.
Dominique Alzéhari, procureur de la République de Toulouse avec Benjamin Peter. Je vous parle maintenant d'un drame stupide, une bagarre sans intérêt qui débouche sur la mort d'un adolescent de 17 ans. Les faits remontent au 28 avril dans un quartier sensible d'Avignon. Le jeune mineur reçoit 21 coups de couteau dans la confusion d'une mêlée générale. L'enquête difficile avance. 6 personnes sont en garde à vue. Récit Nathalie Chevance.
Ce sont les toutes premières gardes à vue un peu plus d'une semaine après la mort de Pierre, 17 ans, apprenti en menuiserie, poignardé 21 fois dont un coup reçu en plein cœur. Un jeune inconnu des services de police décrit par sa famille comme un garçon gentil, serviable, souriant. Il est mort sur le bitume dans un quartier sensible d'Avignon où il n'habitait pas. Victime d'un déchaînement de violence pour une simple histoire entre filles dans laquelle il n'avait rien à voir. Une embrouille de gamine de 16 ans, un mauvais regard, un comportement qui ne plaît pas, une broutille. Mais Pierre a tenté de s'interposer entre deux adolescentes venues ce soir-là pour s'expliquer. Il connaissait l'une des deux jeunes filles qui l'accompagnaient et dont il a pris la défense. Le ton est monté, les insultes, attroupements et une bagarre générale impliquant une vingtaine de personnes. Qui a frappé le jeune garçon avec un tel acharnement? L'enquête est compliquée, glisse-t-on à la PJ. Le plus jeune suspect n'a que 15 ans. Une mère de famille a été entendue. Chacun donne sa version. Les enquêteurs s'emploient à tirer les fils, car le soir du drame, le ou les auteurs des coups de couteau ont pris la fuite en courant.
Récit signé Nathalie Chevance pour Europe 1.
À suivre dans ce journal, un policier mis en examen parce qu'il détournait des armes issues des saisies. C'est une information Europe 1. On vous raconte dans un instant. À tout de suite.
Excellent réveil sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 6h38, Mathieu Noël.
La suite du journal David Decan, information Europe 1. Un policier de Rennes est mis en examen. On le soupçonne d'avoir détourné des armes issues des saisies policières.
Oui, l'histoire se passe dans le Morbihan et commence par la découverte, par hasard, d'un stock impressionnant de fusils et de pistolets. Tous les détails de l'affaire avec Guillaume Bier.
À l'origine, c'est un groupe d'adolescents qui jouent au foot près d'un hangar agricole. Quand soudain, par hasard, l'un d'eux trouve derrière des bottes de paille à peine dissimulées, des armes. Une vingtaine de fusils, près de 80 pistolets, des milliers de munitions. Les gendarmes sont alertés et un détail les intrigue, certaines munitions sont encore emballées sous la mention « Police nationale ». Le lendemain, rebondissement, deux hommes se rendent spontanément à la gendarmerie. Il s'agit du propriétaire du hangar et d'un policier de la PJ de Rennes. Selon nos informations, ils se sont présentés comme des collectionneurs d'armes et ont reconnu que tout ce stock leur appartenait. Le problème, c'est que certaines de ces armes sont des saisies policières qui auraient dû être détruites, mais le policier en question est soupçonné de les avoir détournées pour les garder pour lui. D'après nos informations, jeudi dernier, les gendarmes ont mené une perquisition dans les locaux de la police judiciaire de Rennes et dans le bureau du fonctionnaire âgé de 59 ans. Ils ont encore retrouvé plusieurs armes et des munitions. Résultat, les deux hommes sont mis en examen et placés sous contrôle judiciaire par un juge qui a co-saisi la gendarmerie et l'IGPN pour faire toute la lumière sur l'origine de cet arsenal.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Le procès France Télécom, 35 personnes s'étaient suicidées en 2008-2009. Hier, l'ancien PDG accusé de harcèlement moral s'est défendu. Que les transformations imposées à l'entreprise n'aient pas été agréables, c'est comme ça, je n'y peux rien. Si je n'avais pas été là, cela aurait été pareil, peut-être même pire, a déclaré Didier Lombard. Vous n'en pouvez plus, Mathieu, vous pouvez l'admettre. Oui. Vous avez besoin de savoir à quoi ressemble le fils de Meghan et Harry.
Laissez-moi deviner. Un petit bébé tout rose avec des petits petons.
Tout rose, je ne sais pas. Quel prénom vont-ils choisir? On le sent d'ailleurs, vous êtes à bout de nerfs.
Mais c'est vrai.
Ah, vous êtes à bout de nerfs.
Oui.
Et les fans de la couronne devant le château de Windsor, eux aussi, sont à cran. Reportage de notre envoyé spécial. Vite! Théo Manval. Vite.
Ils espèrent une présentation en bonne et due forme, les parents et le bébé pour de vrai sur le perron de leur cottage. Mais pas sûr pour les fans, que Meghan et Harry suivent le cérémonial respecté pour leurs trois enfants par Kate et William. Une simple photo publiée sur Instagram, voilà qui décevrait Julia.
On espère qu'ils feront quelque chose de spécial, qu'ils nous laisseront tous entrer pour le voir en chair et en os.
que toutes les cloches sonneront, ce serait bien, mais on ne sait rien.
Depuis le début de la grossesse, le couple s'est fait des plus discrets. On ne sait toujours pas d'ailleurs si Meghan Markle a vraiment accouché chez elle ou bien à l'hôpital. En tout cas, outre le prénom, tout le monde attend maintenant surtout la frimousse de ce bébé qui révolutionnera malgré lui en partie l'histoire de la famille royale, s'extasie Shannon.
Oh my God,
j'ai tellement hâte, un bébé métis. Il aura peut-être les cheveux roux, peut-être les cheveux crépus, une afro. Moitié Meghan, moitié Harry, j'ai tellement hâte.
Et pour être sûr de ne rien rater, Shannon a passé une nouvelle nuit à même le pavé, juste devant le château, au cas où. À Windsor, Théo Manval, Europe 1.
Et voilà, c'est la fin de ce journal, Mathieu Noël.
Et malheureusement,
on s'arrête sur cette frimousse que l'on
cette
attend.
Cette belle petite frimousse que nous attendons avec impatience. C'était le journal de David Doucan. Et David, comme hier, vous vous êtes permis de me dire quels sons il était bon que je diffuse et quels sons il valait mieux que je m'abstienne. Une spéciale dédicace pour votre épouse. Voici, Madame Doucan, un off de votre mari qui vous permettra de mieux savoir quand il vous ment. Il y expose sa technique. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est vicieuse. Il la dévoile au détour d'un conseil qu'il me donnait hier.
Il faut, en fait, quand tu n'es pas suffisamment grotesque, là, tu es ridicule. Si tu vas très très loin, ça passe. Tu vois, c'est comme les mensonges.
À bon entendeur, Madame Doucan. Hein, voilà, vous saurez maintenant détecter les mensonges de votre petit Davidou. On passe à la météo.
Comment vous savez profiter d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Et je sais qu'elle vous appelle Davidou car je sais tout, David Doucan. Et maintenant, nous écoutons la météo de Céline avec pluie et vent au programme aujourd'hui.
Oui, une perturbation qui traverse la France d'ouest en est, c'était prévu. Elle est bien en place déjà ce matin sur la partie ouest du pays avec des pluies régulières. Un vent qui se renforce entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Puis cet après-midi, c'est sur l'est qu'on va la retrouver avec des pluies soutenues. Peut-être même quelques coups de tonnerre. On aura le retour de quelques éclaircies sur une partie ouest où tout de même ça va rester bien agité, de l'Aquitaine au Limousin, le tout sous des températures en hausse ce matin mais qui restent juste pour la saison cet après-midi puisque la moyenne ira de 13 à 18 degrés du nord au sud.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, dans la nuit sans lune de l'actu, ils sont votre maglite géante. Les trois fantastiques arrivent avec au sommaire notamment ce matin la droite et les municipales à Paris. Tout un poème selon notre spécialiste politique Aurélie Herbeau.
Très bon réveil à tous sur Europe 1, il est 6h43. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Un grand club, un grand match, un grand public. Liverpool a renversé Barcelone. Quel exploit, 4-0. Les trois buts du Barça au match aller sont oubliés. Les Reds iront en finale de la Ligue des Champions. 5 heures d'angoisse, mais un dénouement heureux. Les 4 femmes retenues en otage dans un bar PMU de Blagnac près de Toulouse ont été relâchées. Le forcené âgé de 17 ans a été arrêté. Enfin, des précisions sur les réductions fiscales annoncées par Emmanuel Macron. Gérald Darmanin affirme que 95% des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu paieront en moyenne 300 € de moins. Interview du ministre du Budget dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le moment que vous attendiez est enfin arrivé. Ce carrefour des éditorialistes ou des journalistes engagés osent mettre sur la table les vraies questions.
Ça serait bien qu'on la fasse bourrer cette émission. Mais alors faudrait commencer à picoler à quelle heure pour être bourré pour faire l'émission.
Oui, non. Voilà pourquoi ce n'est pas les 4 mais les 3 fantastiques. Aurélie Herbeau pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie, Eva Roque pour les médias et on démarre, comme le veut la coutume, par la politique avec vous, Aurélie. Il n'y a pas que les européennes qui intéressent les élus en ce moment, il y a aussi les municipales de mars 2020. À Paris, on se prépare pour cette élection capitale, surtout à droite, où Rachida Dati est ultra motivée.
Ah oui, Rachida Dati laboure le terrain, comme elle dit. Vendredi, elle sera encore en déplacement. Un élu reconnaît qu'elle coche beaucoup de cases, bien implantée, connue, déterminée. Mais il ajoute, elle a toujours été dans la menace plutôt que les bisous. Il faudrait qu'elle fasse un vrai effort avec nous. Rachida Dati n'a pas que des amis au sein de la droite parisienne. Si c'est elle, ce sera une catastrophe, une boucherie, dramatise un élu qui plaide pour une autre option. Pierre-Yves Bournazel et son profil, plus rassembleur. Problème, le député a quitté LR. Du coup, Laurent Wauquiez exclut sa candidature. Ah oui. Alors depuis des mois, la droite cogite. Certains rêvent d'une arrivée d'Édouard Philippe. Oui, le premier ministre d'Emmanuel Macron. D'autres se disent, pourquoi pas Jean-Louis Borloo ? On tourne en rond, peste un maire d'arrondissement. Quand une élue se lamente, si on avait un candidat fédérateur, ça se saurait. Mais hors de Paris, Rachida Dati a des avocats comme Christian Jacob. Il faut arrêter de tergiverser, dit-il. C'est la seule qui peut parler aux habitants de l'Est parisien.
Comment la droite va désigner le candidat ou la candidate?
Oui, je vous sens perturbé.
Oui, j'étais perturbé parce que je ne vois pas comment Rachida Dati va en quoi elle va séduire les habitants de l'Est parisien, que oui. Je crois connaître un peu. Enfin, je ne sais pas vraiment le profil. Hein, Rachida Dati, plutôt le 7e arrondissement.
Ils vous disent qu'elle est à l'aise partout. C'est vrai que Rachida Dati, quand elle va quelque part, tout le monde veut la voir.
Ah, d'accord.
C'est
donc
devenu un petit peu
aussi.
Une icône. Oui, voilà, c'est ça qu'on vous dit.
Pourquoi pas, Aurélie?
Pourquoi pas?
Et alors, comment la droite va désigner le candidat ou la candidate finalement?
Alors, une primaire ouverte comme en 2014, je ne vous cache pas que pas grand monde ne défend cette idée qui a été suggérée par Florence Berthoud, la chef de la droite au Conseil de Paris. Rachida Dati confie « Imaginez une primaire avec moi, on va sortir en lambeaux pour la direction du parti. L'objectif pour l'instant, c'est de laisser la main aux élus parisiens avec quelques consignes quand même. Mettez-vous d'accord sur un nom, consultez les adhérents si vous voulez et évitez de jouer au ball-trap. Mais s'ils n'arrivent pas à se décider, eh bien c'est la commission d'investiture qui tranchera. J'entends les réserves sur Dati, me confie un proche de Laurent Wauquiez, mais à part elle, qui peut être notre candidat?
Ah bah oui, bon, ouais. Ça c'est un bon argument. Merci.
Donc a priori, voilà.
Merci Aurélie Herbemont pour ces informations, cet éclairage politique. On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlé. Et si la voiture électrique était le fossoyeur de l'industrie automobile européenne? C'est la question un peu choc que
oui,
vous posez.
Toujours.
BMW voit ses comptes basculer dans le rouge à cause de l'électrique et Peugeot Citroën a bien du mal à trouver des ingénieurs en électricité.
Eh bien oui, ce sont deux informations qui se télescopent et qui montrent que l'industrie automobile européenne qui domine au niveau mondial l'automobile, eh bien l'Europe doit sérieusement s'inquiéter. Alors en effet, vous l'avez dit, pour la première fois depuis 10 ans, BMW voit ses comptes basculer dans le rouge avec une perte de 300 millions au premier trimestre. Et le constructeur allemand explique que, bah, en fait, il y a des coûts faramineux en investissement pour maîtriser cette technologie de l'électricité, du moteur électrique. Et puis il y a aussi toutes les usines qui fabriquaient des moteurs thermiques et qui vont maintenant devoir fabriquer des moteurs électriques. Donc il faut tout changer. D'un autre côté, hier, il y avait un article, c'est une autre information, article des Échos, qui révélait que Peugeot Citroën avait dû dardard et un peu dans l'urgence se créer toute une filière électrique. C'était des compétences qu'ils ne maîtrisaient pas tout à fait. Et les gens de PSA ont eu bien du mal à recruter des ingénieurs. Et du coup, ils ont brisé un tabou. Ils ont fait ce qui ne se faisait pas jusqu'à présent. Ils sont allés piocher chez Renault. Parce que jusqu'à présent, il y avait un accord tacite entre les deux constructeurs. On ne se débauche pas chez l'un l'autre.
Mais après, il n'empêche que Renault-Nissan, c'est le leader mondial de la voiture électrique. Il n'y a aucune raison que les constructeurs européens ne réussissent pas cette transition, Axel.
Eh bien, écoutez,
non d'une pipe.
Mais si, la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait la force des constructeurs européens, c'est que depuis un an, ils ont perfectionné le moteur thermique, le moteur à explosion. Il y a toujours plus de chevaux et il y a une consommation qui ne cesse de baisser. Eh bien, toute cette expertise acquise depuis un siècle, on peut la jeter à la poubelle. Puisqu'aujourd'hui, le moteur n'est plus thermique, on l'a dit, il est électrique. Or, un moteur électrique, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce toute bête. C'est beaucoup plus simple. D'abord, il n'y a pas de vibration, donc les pièces ne s'usent pas. C'est beaucoup plus simple à fabriquer. Il y a 6 fois moins de pièces dans un moteur électrique que dans un moteur thermique. Donc, vous voyez, ça n'est absolument pas, une pièce différenciante. Au fond, c'est quelque chose de banal, comme un rétroviseur, j'exagère. Ce qui sera différenciant demain dans la voiture électrique,
la batterie.
Voilà, c'est la chimie, c'est la batterie. Or, les batteries, elles viennent de Chine. Et donc, la grande peur des Européens, c'est que ce soit demain de simples assembleurs de pièces stratégiques, mais qui viendront d'ailleurs, et que toute l'innovation, tout ce qui fera que l'effet « waouh » viendra de Chine. Et c'est peut-être ainsi qu'on risque d'enterrer l'industrie automobile européenne.
Mais vous parlez d'un futur lointain, puisque dans un premier temps, il faudrait déjà qu'on passe au tout hybride et pas au tout électrique.
Je pense qu'il va y avoir peut-être une première phase. Regardez la petite Smart qui a été fabriquée à Maubeuge et qui sera fabriquée là,
et
à partir de 2023. Oui, elle est 100% électrique.
100% électrique.
Donc elle sera fabriquée directement en Chine parce que les gens de Smart disent, écoutez, autant se rapprocher carrément des compétences, et les compétences en matière électrique, elles sont en Chine.
Je conclurai donc cette analyse économique par mon analyse personnelle. Ouyouyouy. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Alors, L'enfant que je n'attendais pas, c'est sur France 2 à 21h. C'est une fiction inédite sur un sujet qui est rarement abordé à l'écran et qui reste quand même un mystère sur bien des points pour la médecine, le déni de grossesse. Vous allez découvrir l'histoire de Johanna. Elle a 37 ans, femme très active, ambitieuse dans sa vie professionnelle. Elle est mariée à Laurent, qui est kiné. Ils ont une petite fille déjà de 5 ans. Tout va bien pour la famille, sauf qu'une nuit, des douleurs vont réveiller Johanna et elle accouche dans sa salle de bain. Dans un état second, elle dépose alors le bébé à proximité d'une poubelle. Elle va se réveiller à l'hôpital et elle ne comprend pas pourquoi.
C'est un mécanisme de défense psychologique. Pendant 9 mois, votre cerveau a refusé cette grossesse et il a tout fait pour vous la cacher.
Non mais c'est impossible. C'est impossible, je prenais la pilule. J'ai eu mes règles tous les mois, j'en suis sûre. J'ai eu aucun symptôme. Pour Camille, je me rappelle très bien, j'avais des nausées. Mais là, rien. Je l'ai jamais senti bouger.
Alors une femme désemparée qui, quelques jours plus tard, eh bien, va se retrouver devant un juge d'instruction qui refuse, en l'occurrence, de prendre en compte le déni de grossesse.
Madame Solis n'est pas une jeune écervelée qui ne connaît pas les symptômes d'une grossesse. C'est une femme intelligente, avec une certaine aisance matérielle, mère de famille. Elle aurait très bien pu assumer cet enfant. Elle ne l'a volontairement pas fait.
L'accouchement a été un choc. Ma cliente n'était pas en possession de toutes ses facultés mentales.
On peut très bien imaginer que votre cliente savait très bien ce qu'elle faisait. Il se peut même qu'elle ait tout prémédité. Elle a volontairement caché sa grossesse parce qu'elle ne voulait pas de cet enfant. Puis elle a tenté de le tuer à la naissance en l'étouffant dans un sac.
C'est fou.
Johanna va se retrouver incarcérée et à elle donc de se battre désormais pour faire reconnaître ce déni de grossesse. C'est une excellente fiction qui réussit pour plusieurs raisons. D'abord par le choix du sujet qui est abordé quand même de façon intelligente avec des tentatives d'explication pour comprendre le mécanisme du déni de grossesse comme vous l'avez entendu avec le médecin précédemment. Elle est réussie aussi parce que le fait d'imaginer cette situation dans une famille plutôt aisée et les traits prouvent que le déni de grossesse n'est pas lié à une classe sociale et puis elle est réussie surtout grâce à deux comédiens de talent, Bruno Solo et Alix Poisson dans La peau des parents. Ils sont mais exceptionnel.
Mais
ils éclaboussent.
L'extrait qu'on a entendu
avec Alix Poisson en l'occurrence
dans
la maman, dans
l'extrait
de la maman. C'est
très juste.
Mais c'est vraiment, c'est incroyable. Ils éclaboussent de leur talent, même les autres personnages, hein, je dois dire. Difficile de pas imaginer que ces rôles ne les aient pas atteints d'ailleurs à la fin de ce tournage. Leur émotion transpire à travers l'écran. Je vous mets au défi de ne pas écraser une petite larme d'ailleurs. Mmh. Alix Poisson connaît très bien le sujet parce qu'elle avait déjà interprété Madame Courgeot, Véronique Courgeot dans une précédente fiction.
Merci.
À voir sur France 2 21h.
À ne pas rater ce soir. Merci beaucoup Eva Roch, merci Axel de Tarlet, Aurélie Rebemont. L'équipe des Trois Fantastiques revient demain. J'ajoute cette petite information qui risque de devenir grosse. Accord nucléaire, l'Iran a décidé de suspendre certains de ses engagements. La nouvelle vient de tomber, on va certainement y revenir dans les éditions des journaux sur Europe 1. Merci à tous.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Dans les bras accueillants de Nikos Aliagas, vous allez m'oublier. Nikos et son sens de la pédagogie conforme à notre cahier des charges. Évitez le jargon. Le présentateur de la matinale s'emploie chaque matin à traquer les mots trop techniques, comme par exemple hier durant la rubrique Écho.
Parce que si les États-Unis et la Chine ne trouvent pas d'accord, eh bien les répercussions sur le commerce mondial, sur la croissance seront considérables.
Qu'est-ce que ça veut dire considérable ?
Oui, bon, parfois il va un petit peu loin. Il va un petit peu loin, mais le débrief de la matinale à suivre.
Bon réveil à tous, c'est 6h53. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine, mais même le 8 mai, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Nikos qui arrive, le voilà tout juste à l'heure in extremis. Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez, Nikos ?
Steak des chèvres.
Oh, des chèvres, voilà une drôle de manière de parler des journalistes de la rédaction d'Europe 1 avec qui vous faisiez vos derniers réglages. Des chefs, des journalistes qui, faut l'admettre, jouent parfois avec vos nerfs, mon cher Nikos. Je pense notamment à Anis Mbida, notre expert innovation, qui a une légère tendance à survendre ses infos, à tel point qu'hier, vous ne saviez plus trop si c'était du lard ou du cochon.
Des chercheurs ont réussi à prouver qu'on pouvait faire des bébés sans sperme et sans ovules.
Mais on devrait ouvrir le journal avec ça. Pendant 4 jours, on devrait faire... Vous êtes sûr que c'est une vraie info ?
Mais quel ramasse-joie ! Vous savez, Nikos, s'il faut vérifier toutes les infos qu'on donne, on ne rattrapera jamais RTL. Hein. Au rang des satisfactions, il y a d'ailleurs un point sur lequel aucune radio ne nous rattrapera jamais, c'est sur la précision de nos points météo. Alors certes, faut pas être pressé de partir au boulot. Hein. Faut avoir une grosse demi-heure devant soi. Mais à l'heure actuelle, il n'y a que Laurent Cabrol pour faire 3 minutes sur les différences de température entre l'aéroport de Grenoble-Sud et l'aéroport de Grenoble-Nord.
This has been breaking news.
C'est compliqué parce que Grenoble-Saint-Jouard, Grenoble-Saint-Étienne-de-Saint-Jouard, c'est l'aéroport de Grenoble. Il est situé à 43 km de la ville. Alors bon, c'est pas tellement une référence. Si on prend l'autre aérodrome qui s'appelle Grenoble-Versoux, le Versoux, il est à 14 km de Grenoble. Et là, il fait pas moins 2, il fait plus 2.
Bah voilà, assez étrange. Ouais.
Oui, ce qui est étrange, c'est surtout cette fascination soudaine pour Grenoble. Mais peu importe, tout est permis à Lolo, qui comme il avait fait un cours, comme qu'il avait, pardon, j'arrive plus à parler, comme il avait fait cours sur Grenoble, s'est dit tiens, et si je racontais en plus un souvenir d'enfance. La séquence qui suit est sponsorisée par les dragées La Pique qui chante.
Mon grand-père me disait toujours, tu sais, mon petit Lolo, qui c'est le vent, c'est le temps.
Merci, Papa Cabrol.
Papy.
Concision, émotion, voilà les valeurs cardinales de Laurent Cabrol. Moi-même, je vais m'en inspirer ce matin en m'arrêtant là. Et en plus, ça m'arrange, je suis pressé. J'ai, comme je vous le disais hors antenne, Nico, c'est un petit rendez-vous médical.
Vous allez tout à l'heure vérifier vos raisins, vos grappes.
Non, mais je vous en prie, Secret médical.
Je connais un bon médecin si vous avez besoin.
Tant mieux.
Et qui ne parle pas.
compris ce chef.
Vous serez juste sur Internet après. Merci Mathieu Noël, merci Eva Roche.
Merci Nikos.
Vous aussi les amis, bon repos. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Nikos.
Ça va bien ?
Très bien. Et vous, ça va ?
Je sais pas comment vous faites, vous êtes toujours fraîche, charmante et pétillante.
Non, bah alors ça, c'est très gentil. C'est faux, mais c'est très gentil.
Non, non, mais je le dirai aussi à Hélène Zélani et aux autres, vous inquiétez pas. Comment ça va, maître ?
Bah,
maître Cabrol ?
C'est pas la définition du temps qui va régner aujourd'hui.
Mais vous l'aviez dit hier, donc ouais. Je vous dis merci.
Alors voilà,
vous l'aviez prédit.
Des giboulées, des orages, des vents forts, et au travers de ces brutalités, parfois un rayon de soleil, comme quand après une pluie de sentiments, eh bien survenait la lumière. Et c'est ce sera le cas sur l'Aquitaine, le Limousin et le Berry. La lumière viendra un petit peu dans ces régions, mais ailleurs c'est de la pluie. Des pluies qui seront fréquentes sur la Lorraine, Alsace, le Dijonais, la région Rhône-Alpes, le bassin méditerranéen, le Midi-Pyrénées. Des pluies pratiquement toute la journée, donc peu ou prou. Et puis sur des régions comme le Nord-Picardie, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, la Normandie, la Vallée de la Loire, le Poitou-Charentes et le Berry, dans toutes ces contrées, ils ont une avalanche d'averses, de giboulées, de vents forts et des vents de 60-70 km/h. C'est pas terrible.
C'est pas le mois de mai.
Oh, ras-le-bol. Alors attendez, des températures, 13 à Dijon. Cet après-midi. Mmh. Ça, c'est relativement doux quand même. 14 à Nancy, 15 à Colmar, 16 à Cognac, à Clermont-Ferrand et Lyon, 17 à Rennes, à Paris, à Château et à Caen, 18 à Marseille, 20 à Toulouse et 23 degrés à Ajaccio.
Quand même, les Corses résistent.
Oui.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Un prochain point météo juste avant le journal de 7h30.